Ce n'est que dans cette maison d'époque tardive, ornée de bas-reliefs décadents, que nous avons pu trouver des indices au sujet de la catastrophe qui avait forcé les habitants de la cité à l'évacuer. Il devait certainement y avoir bien d'autres sculptures du même âge ailleurs, même si l'on tient compte du relâchement des énergies et des aspirations qui se manifestent dans ce genre de période incertaine et angoissante. En fait, nous avons eu, peu de temps après, la preuve certaine de leur existence, mais c'était le premier et le seul ensemble que nous ayons vu de nos yeux. Nous avions l'intention de continuer nos recherches plus tard, mais, comme je l'ai dit, des circonstances immédiates nous ont détournés vers un objectif plus proche. Néanmoins, il y aurait forcément eu une limite, car quand les anciens ont abandonné tout espoir d'occuper à nouveau les lieux de façon prolongée, ils ont nécessairement mis fin à toute décoration murale. Bien sûr, le coup de grâce avait été donné par l'arrivée des grands froids qui avaient enserré presque toute la terre et qui n'ont plus jamais quitté les pôles, des grands froids qui, à l'autre extrémité du monde, ont mis fin aux fabuleuses contrées de l'Omar et d'Hyperborée. Il serait difficile de dater exactement le commencement de cette tendance dans l'Antarctique. Aujourd'hui, nous situons le début de l'ère glaciaire à environ 500 000 ans avant l'époque présente, mais dans les régions polaires, ce terrible fléau a sans doute débuté bien plus tôt. Toutes nos estimations quantitatives sont nécessairement hasardeuses, mais il est probable que ces sculptures décadentes aient été gravées il y a moins d'un million d'années et que la ville ait été désertée bien avant la date qui, au niveau de l'ensemble du globe, marque le début du Pléistocène, il y a donc 500 000 ans. Ces sculptures montraient des signes que la végétation se raréfiait et que les anciens vivaient de moins en moins à la campagne. Les maisons s'équipaient d'appareils de chauffage et les voyageurs hivernaux étaient représentés emmitouflés dans des vêtements protecteurs. Puis, nous avons vu une série de cartouches, les arrangements en bande continue étant de plus en plus fréquemment interrompus dans ces sculptures tardives, représentant une migration constante vers des refuges plus chauds. Certains anciens gagnant des villes sous-marines loin des côtes, d'autres descendant dans le réseau des cavernes calcaires des collines creuses pour rejoindre l'abîme ténébreux des eaux souterraines. Cet abîme avait fini par recevoir le plus grand nombre de colons. Ceci est certainement dû en partie au caractère traditionnellement sacré de cette région particulière, mais aussi aux possibilités qu'elle offrait pour le maintien de l'utilisation des grands temples sur les montagnes creusées de galeries et pour la conservation de la grande cité terrestre comme résidence d'été et base de communication avec les différentes mines. Le lien entre les anciens et les nouveaux lieux de résidence avait été rendu plus efficace par l'amélioration des routes existantes et le forage de nombreux tunnels menant directement de l'ancienne métropole à l'abîme obscur, des galeries qui descendaient abruptement et dont nous avons soigneusement marqué les entrées après une série de calculs délicats sur la carte des lieux que nous nous efforcions de compiler. Il était évident qu'au moins deux de ces tunnels s'ouvraient à peu de distance de nous. Tous deux se trouvaient en bordure de la ville du côté de la montagne, l'un à 300 mètres vers l'ancien lit de la rivière, l'autre à une distance double dans la direction opposée. Le gouffre souterrain comportait, semble-t-il, des zones de terre ferme à certains endroits, mais les anciens avaient bâti leur nouvelle cité sous la mer, sans doute pour y profiter d'une température uniformément chaude. Cette mer cachée semble avoir été très profonde, si bien que la chaleur du centre de la terre garantissait son habitabilité pour une période indéfinie. Ces êtres n'avaient apparemment aucun problème à s'adapter temporairement, voire de façon permanente, à la vie sous l'eau, car ils n'avaient jamais laissé leurs branchies s'atrophier. Bien des sculptures montraient comment ils rendaient fréquemment visite à leurs semblables vivant au fond des mers et comment ils avaient l'habitude de se baigner tout au fond du grand fleuve. Les ténèbres des entrailles de la terre n'auraient pu rebuter une race accoutumée aux nuits interminables de l'Antarctique. Malgré leur style indubitablement dégénéré, les derniers bas-reliefs racontant la construction de cette nouvelle cité sous-marine avaient quelque chose de véritablement épique. Les anciens avaient procédé de façon scientifique. Ils avaient extrait des roches insolubles du cœur des montagnes creuses et employé les travailleurs qualifiés venus de la ville sous-marine toute proche pour en entreprendre la construction de la meilleure des façons.